Eh bien, en face de moi, on l'a annoncé depuis quelques jours, Marc Glotz, qui vient nous présenter son livre. Mais auparavant, bonjour.
Bonjour.
Alors, Marc Glotz, il faut d'abord vous présenter. Vous êtes qui ?
Alors, je suis qui ? Je viens du Sungo, du nord du Sungo, la région mulhousienne. Et j'ai été directeur d'école jusqu'à il y a peu de temps. Je bénéficie actuellement d'une retraite qui me permet de me plonger à plein temps dans l'histoire.
Et en plus de ça, vous faites du tourisme.
Et j'en profite pour faire du tourisme.
Oui, parce
pour venir chez vous.
Pour venir de là en bas, donc c'est en dessous de Mulhouse.
Oui, exact.
Et vous avez pris le chemin des écoliers, puisque qu'ancien enseignant.
Et puis il fait beau.
Oui.
Et on a plein de choses à apprendre et à voir.
Et donc vous êtes promené un petit peu du côté des Vosges, du côté de Saverne.
De Saverne, de Grauthal.
Oui.
Que j'ai découvert.
Ah, vous ne le connaissez pas?
Je connaissais de nom, bien sûr,
mais
je n'y étais jamais allé.
Surtout, je suis sûr que nous, de là en bas, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas.
Oui, c'est un peu le pendant, remarquez le Sungo.
C'est vrai.
C'est plein de collines.
Oui.
Ça ressemble un peu à l'Alsace bossue.
C'est vrai?
Oui.
Donc il faut y aller.
Il faut aller dans le Sungo. Ah oui, je recommande.
Oui, il y a quelque chose à visiter.
Alors, si vous poussez assez loin, vous avez les trois châteaux du Jura alsacien.
Ah oui,
l'autre montagne de l'Alsace, on résonne toujours en Vosges, mais il y a aussi le Jura. Et puis vous avez la ville d'Alkirch qui est intéressante, la vallée de la Largue, la vallée de l'Isle, les étangs, la carpe frite.
Ah bah oui.
Il y a de quoi faire.
Il y a vraiment de quoi visiter. Et donc vous êtes venu, mais de toute façon vous connaissiez quand même un peu le coin.
Oui, bien sûr.
Puisque vous m'avez dit tout à l'heure, vous y avez emmené vos élèves à l'époque.
C'est vrai.
Hein?
Tout près d'ici, une maison de la nature, à Lorenzen.
Oui, et puis vous avez été aussi voir un petit peu le cristal, puisqu'on a parlé du musée de la Ligue, du plan de Saint-Louis.
Oui, j'étais émerveillé par la cristallerie de Saint-Louis-les-Beach.
Oui.
Extraordinaire visite, quand on découvre cette manière de travailler à l'ancienne.
Et avant justement de revenir à votre ouvrage, les élèves, ils prennent ça comment lorsqu'ils vont visiter ce genre d'établissement?
Alors vous savez, quand je rencontre d'anciens élèves, ils me disent ce qui les a marqués, ce sont les classes vertes. Ça c'est extraordinaire parce que pour eux c'est une découverte à 10 ans.
Ça existe encore ça?
Ça se pratique encore difficilement parce que les conditions sont devenues plus dures.
Ouais.
Mais c'est précieux. Je crois qu'il faut à tout prix cultiver ça, les classes vertes.
Eh oui, j'en connais qui ont participé et c'est vrai qu'ils gardent un très très bon souvenir. En attendant, on va quand même venir au sujet. Un miroir de la noblesse alsacienne au XIXe siècle, paru aux éditions Idée l'édition. Vous avez écrit... Alors, ça n'est pas un roman, bien entendu.
Non. Quoique, en le lisant, on peut se croire en train de lire un roman par moment. Oui,
alors, qu'est-ce qui vous a incité à écrire un livre sur la noblesse alsacienne? Parce qu'en tant qu'enseignant, vous avez sûrement éduqué les enfants, appris aux enfants l'histoire de France, donc avec les grandes familles.
Pas suffisamment l'histoire d'Alsace,
je
le regrette.
Parce que ça n'est pas dans les...
C'était pas dans les programmes, non.
Voilà, et donc vous vous êtes dit, pourquoi pas, il faut défendre un petit peu notre région.
Oui, il faut défendre notre région qui a une histoire très particulière. Et puis l'histoire de la noblesse est encore plus particulière. Cette noblesse alsacienne qui est...
Parce qu'elle n'est pas tout à fait alsacienne non plus, à 100%.
Oh, elle était du Saint-Empire romain germanique à l'origine.
Oui.
Et puis elle a été... Ensuite, elle s'est mêlée à une noblesse d'empire, au XIXe siècle.
Et ce livre, c'est au XIXe siècle, mais vous en aviez déjà écrit un autre
auparavant. Oui, j'avais écrit un ouvrage sur Antoine de Reynac-Hirzpah, le dernier seigneur d'un village sungovien. Et j'avais essayé d'expliquer ce qu'était un seigneur sous l'Ancien Régime et comment un seigneur faisait pour traverser la Révolution sans trop d'encombre.
Oui, et il y arrivait.
Il y est bien arrivé, oui. Antoine était assez malin pour se fondre dans la population qu'il fallait.
Oui, et puis comme on dit, une veste de temps en temps, c'est fait pour se retourner.
Oui, et puis il faut savoir s'adapter, c'est un signe d'intelligence.
Oui.
On peut le tourner comme ça aussi.
Exactement, c'est beaucoup plus joli de ce que j'ai dit. Donc, les lettres... Attendez, qu'est-ce que j'ai marqué, moi? Les lettres sont toujours hautes en couleur. C'est une phase un peu grandiloquente. Ça vous dit quelque chose?
Oui.
Hein? Ça, je l'ai pris de votre livre.
Vous l'avez sorti du livre.
Oui.
Mais vous savez, ces lettres sont écrites de manière remarquable. Quand on... quand on lit les lettres de Jeanne de Corne, et c'est ce qui m'a décidé à écrire le livre, c'est lorsque j'ai trouvé ces lettres de Jeanne de Corne dans les archives de la famille de Reynac, 94 lettres qui couvrent une période de 30 ans.
Oui.
Entre 1870 et 1900, et qui sont merveilleusement bien écrites.
Et en même temps, donc, c'est la correspondance avec la famille Mullenheim.
Oui, c'est ça. C'est Jeanne de Corne et la petite-fille du général de Corne, qu'on a surnommé le Bayard alsacien, pour sa bravoure sur les champs de bataille, qui était couvert de balafres, de blessures.
Les familles, la noblesse alsacienne, est-ce qu'on en trouve plus dans le sud ou dans le nord de l'Alsace?
Alors, curieusement, cette noblesse alsacienne, d'après la Révolution, puisqu'on est là au moment où les nobles reviennent d'émigration, au début du XIXe siècle, s'installe au nord de Célestat. Dans cette petite région au pied du mont Saint-Odile, il y a une concentration de familles qui fait qu'on va d'un château à l'autre, d'une maison à l'autre, on se fréquente beaucoup. Alors que le Sungo, par exemple, n'est habité que par les Reynakirtspar.
Et le nord.
Alors, au nord, on a les Dietrich, les Turkheim, les Niederbronn.
Oui.
On a Matchtal avec Paul de Bussière, à la frontière avec l'Allemagne, tout au nord.
Donc, comme on dit, il y a toujours un petit peu cette correspondance avec l'Allemagne, puisque...
Oui, bien sûr. Et on se rend compte qu'il n'y a pas de frontière. Vous savez, cette notion de frontière qu'on a aujourd'hui, la noblesse ne l'avait pas. Pour vous donner un exemple, Jeanne de Corne, la petite fille du général d'Empire de Corne, correspondait avec sa cousine germaine, elle aussi petite fille du général, qui avait épousé le premier ministre du Grand-Duché de Hesse.
Oui, donc c'était de l'autre côté de la frontière.
Elle allait facilement de l'autre côté de la frontière. Et elle était en même temps cousine, les deux étaient les cousines, de Mélanie de Pourtalès, la fameuse comtesse de Pourtalès de la Robertsau, qui, tout le monde le sait, était très francophile et avait été une proche de la cour de Napoléon III.
Donc, oui, donc c'est quand même un peu intéressant de voir que la noblesse, ça se partage vraiment dans toute l'Alsace, ça s'est vraiment éclaté un petit peu partout.
Oui, elle est surtout, comme dit au XIXe siècle, surtout concentrée autour de Célestat, mais elle voyage beaucoup, cette noblesse. On n'hésite pas à voyager, et pour les études, par exemple, Jeanne tient à faire étudier ses deux fils en France, à l'époque du Reichsland, alors que l'Alsace est allemande.
Oui.
Elle leur fait passer les Vosges et les envoie à Nancy, puis à Saint-Dié.
Oui, c'est vrai que Nancy avait aussi, c'était assez particulier.
C'était particulier.
Oui.
Mais on y apprenait le français et on pouvait s'y préparer à une carrière d'officier français.
Oui, parce qu'en même temps, lorsque les officiers... Là, dernièrement, j'ai reçu quelqu'un qui a écrit un livre donc, sur les malgré nous, et il disait que dans la marine, par exemple, les officiers, c'était quand même des gens, de côté allemand également, des gens nobles qui faisaient leur métier sans pour autant partager quoi que ce soit.
Oui, tout à fait. C'est quand même la noblesse est issue de la classe combattante du Moyen-Âge, et elle continue de servir les armes. Donc c'est tout à fait normal. Jeanne de Corne a deux fils. L'un va devenir officier de cavalerie et l'autre officier de marine.
Et qu'est-ce qu'ils vont devenir?
Alors,
on va savoir ça dans quelques instants. Marc Lutz, on parlait juste avant notre pause donc de ses fils, puisque ce sont des familles de la noblesse qui ont eu aussi chacun beaucoup d'enfants.
Oui, ils sont quatre là, les enfants de Jeanne, deux garçons et deux filles. Alors les garçons, c'est d'abord Henri, l'aîné, et Luthold, le cadet. Henri va devenir officier de cavalerie. Il fait toutes ses études à Nancy, puis à Saint-Dié, et ensuite Saumur. Et il va malheureusement mourir en 1918, après avoir fondé une famille. C'est l'ancêtre des Mullenheim actuels, de la branche de Mullenheim-Reichsberg.
Et qui existe toujours.
Qui existe toujours. Mmh. Et Luthold, par contre, qui était très doué, qui était un surdoué certainement, qui avait beaucoup d'avance dans ses études, a préparé l'examen à Naval sur l'île de Jersey. Parce que les Jésuites avaient été exilés ou avaient dû quitter la France au moment où la Troisième République a mené ce combat contre l'Église. Elle était donc anticléricale, cette République.
Ouais,
et les Jésuites ont dû fermer leurs écoles et s'implanter à Jersey. Ce qui fait que Jeanne conduit son fils, Luthold, jusqu'à Jersey. Et dans ses lettres, elle nous fait de belles descriptions du mont Saint-Michel, notamment.
Oui, et c'est vrai que c'est également dans ces lettres, c'est un passage que vous allez nous lire là tout à l'heure.
Tout à l'heure, je vais vous lire un passage qui provient d'une autre source. Parce qu'au fond, ce livre est bâti sur trois sources principales. La correspondance dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est 94 lettres de Jeanne à sa cousine, mais aussi les mémoires, les souvenirs de Louis de Mülheim, son mari, qui était le voisin qui habitait à 3 km de Jeanne. Jeanne habitait le château d'Ittenwil à Saint-Pierre, et Louis habitait le Grünstein, qui se trouve à Stotzheim. Et puis Louis, la dernière année de sa vie, se sentant malade, écrit « Souvenirs pour mes enfants », un beau manuscrit dans lequel, d'une plume délicate et très, très fine, il présente à ses enfants cette noblesse d'Alsace qu'ils doivent connaître et qu'il pressent ne pas pouvoir leur présenter plus tard.
Et donc, surtout pour qu'ils continuent à perdurer le...
Oui, il leur donne les codes, il leur dit qui a aidé la famille, et il dépeint les différents membres de la noblesse alsacienne, que ce soit les Zorn de Boulard, les Dandelot, les Rénac Vertes, les Bancalis de Pruine, les Held d'Oberkirch. Toute cette noblesse alsacienne, il la dépeint à travers une série de portraits.
Et vous avez justement cet extrait pour lire
Alors, l'extrait que je vais vous lire, je peux vous lire un extrait de ça aussi, mais l'extrait que je vais vous lire maintenant vient de la troisième source, et ça, ce sont les souvenirs de Marie Capelle.
Alors, qui est cette dame?
Marie Capelle, mieux connue sous le nom de Marie Lafarge, parce qu'elle a défrayé la chronique au XIXe siècle, un petit peu, vous savez, comme l'affaire Grégory à la fin du XXe. L'affaire Lafarge, c'est une triste histoire. Marie Capelle a épousé un monsieur Lafarge et elle a été accusée de l'avoir empoisonné à l'arsenic. Alors était-elle...
Mais c'était à la mode aussi.
Oui, alors était-elle coupable ou innocente? Ça, il est difficile de le dire. En tout cas, elle a été condamnée à la prison à perpétuité et elle a écrit ses mémoires. Et il se trouve que sa mère a épousé en seconde noces, après la mort du père de Marie Lafarge, elle a épousé en seconde noces Eugène de Corne, qui va devenir plus tard le père de Jeanne. Et donc, Marie nous décrit dans ses mémoires, publiées en 1840-41, elle nous décrit ce monde qu'elle a connu en Alsace, à Ittenwil, mais d'une plume extraordinaire. Pour la situer, son grand-père était le tuteur d'Alexandre Dumas père.
Ah oui.
Vous situez tout de suite le père. Alors, écoutez voir ce passage où elle raconte son arrivée en Alsace en 1827, où elle va rejoindre son père, qui y est nommé officier à Strasbourg. Il était 8 heures du matin quand nous arrivâmes au haut de la descente de Saverne. Le soleil, en se levant, reflétait ses rayons chauds et pourprés sur les froides neiges de la forêt noire. Ils faisaient chatoyer leurs crêtes comme de pures opales sur la robe bleue du ciel. Les vapeurs du Rhin tremblaient à leurs pieds en fantasques nuages, et la mystérieuse flèche du clocher de Strasbourg dessinait sa grandiose fixité sur ce mobile horizon. J'admirais de toute mon âme ce magnifique spectacle, quand les pas d'un cheval et le baiser du retour que me donnait mon père vinrent doubler mes extases. Je montai avec lui sur le siège de la voiture, et jusqu'à Strasbourg, nous jouîmes de nous, de la nature, du bonheur de la Réunion et de la plus belle matinée d'automne.
Ah, c'est joliment écrit.
C'est très beau.
Oui.
Et toutes ces mémoires sont écrites comme ça. Alors, il y a ce passage entre 1827 et 1837, qui est la date de mort de sa mère, qui concerne l'Alsace, où elle a de superbes pages sur l'Alsace, notamment sur le Noël alsacien, sur le marché de Noël de Strasbourg, et bien sûr sur la famille de Korn, qui à l'époque ne comprenait pas encore Jeanne. Jeanne était bien sûr allée naître beaucoup plus tard.
Donc il y a de forts beaux passages. Alors c'est vrai que c'est quelqu'un qui a quand même côtoyé aussi des gens de lettres, quoi.
Ah oui, bien sûr, oui. Bien sûr, Marie Capelle était une fille très, très fine et qui se trouvait laide. Et pour compenser cette laideur qu'elle imaginait, elle s'est mise à beaucoup lire et s'est donnée pour mission de devenir spirituelle. Et donc elle a beaucoup d'esprit quand elle écrit. Mais je crois que c'est un petit peu une règle générale au sein de la noblesse. Il faut avoir de l'esprit et de la conversation, c'est important. d'autant plus qu'on a beaucoup d'occasions d'échanger.
Ah oui, puis faut savoir tenir un salon.
Il faut savoir tenir un salon, et c'est ce que faisait Mélanie de Pourtalès à la Robertso.
Oui. Et aujourd'hui, la famille Pourtalès, elle existe toujours aussi?
La famille Pourtalès existe toujours.
Elle est toujours à la Robertso, non?
Non. Non, elle n'est plus à la Robertso, elle est encore à Matchtal, oui, qui est une propriété buissière à l'époque de ses lettres. Pour vous situer, Mélanie de Pourtalès, sa mère est une buissière. Et sa mère est une corne qui a épousé un buissière, voilà. Et donc sa mère est la fille du général de Corne. Ce qui fait que Mélanie de Pourtalès est la cousine germaine de Jeanne de Corne. Et la cousine germaine d'Adèle de Dalwick, l'Allemande qui a épousé le premier ministre du Grand-Duc de Hesse.
Et dites voir, comment est-ce que vous avez recherché tout, parce qu'il faut quand même arriver à retrouver, à remonter toutes ces familles de noblesse. Vous avez commencé par où?
Alors, vous savez, quand vous saisissez les lettres, vous tapez les lettres, vous tombez sur des noms, puis vous vous demandez, mais qui est-ce? Et petit à petit, vous entrez dans ce monde, et quand vous lisez les dernières lettres, tout est limpide, vous connaissez tout le monde. Alors se pose la question de la lecture de celui qui aura le livre en main et qui n'a pas eu ce cheminement que vous avez eu, vous, auteur. Mmh. Et donc c'est pour ça que j'ai mis à la fin du livre 17 généalogies,
oui, oui. Mmh.
Qui permettent de situer tous ces personnages dans les grandes familles alsaciennes, ne figurent dans le livre que les généalogies qui concernent directement les lettres et les mémoires. Mais on se rend compte que ce sont pratiquement toutes les familles alsaciennes qui sont là, toutes les familles nobles d'Alsace. Mmh. C'est ça qui est assez extraordinaire.
Mais vous, les arbres généalogiques, mais vous avez quand même été dans les bibliothèques, vous avez cherché.
Oui, il y a déjà des travaux de fait. D'abord, on a le fameux livre qui est maintenant dépassé, bien sûr, et vieilli, d'Ernest Lehr sur l'Alsace noble. Livre publié à la veille de la guerre de 70. Bien sûr, il est vieilli, mais il nous donne encore de bons renseignements. On a Kindler von Knobloch, on a quelques sources comme ça, précieuses. Et puis ensuite, on a les Gotha, les annuaires de Gotha, et on arrive à recomposer les familles.
Donc, toutes ces familles, finalement, se retrouvent sûrement régulièrement pour des salons, pour repas, oui. Enfin, je sais pas, pour des fêtes, hein,
oui,
tout simplement.
Oui, oui, pour des fêtes. Et puis, ce qui ressort finalement de la lecture de ces lettres et de ces souvenirs, c'est qu'on mène une vie très joyeuse. On n'est pas là à se lamenter tout le temps. On ne parle pas d'argent. Hein, c'est une règle. De temps en temps, Jeanne dit, oh, ça ne suffira pas pour faire un voyage à Saint-Dié. Mais on n'est pas dans la finance.
Ça me rappelle juste une anecdote sur Turckheim, Charlotte de Turckheim. Les finances, elles... Voilà.
Elle disait la même chose, peut-être.
Oui, exactement.
Tout à fait, ça ne c'est pas une valeur. Et Louis de Mülheim a une remarque très, très, très juste. Quand il est à Paris et qu'il assiste au mariage du fils de Madame Turette, qui est une bourgeoise, et qui va donc le fils va épouser une aristocrate. Alors il dit, Madame Turette parle beaucoup trop d'argent, ce qui n'est pas convenable dans la vraiment bonne société.
Donc la différence entre bourgeoise et noblesse,
elle est peut-être là. Dans la noblesse, on parle pas trop d'argent.
Du moment qu'on arrive à vivre.
Qu'on arrive à vivre et à tenir la maison.
D'accord.
Oui, on a parlé tout à l'heure de Louis de Mülheim. C'est vrai que Louis, dans ses souvenirs, nous raconte un peu la guerre aussi. Ses souvenirs commencent en 1880, terminent malheureusement en avril 81 avec sa mort. Il nous parle de la guerre de 70, tout comme Jeanne. C'est donc aussi un très beau document sur ce passage de l'histoire. D'ailleurs, histoire cocasse, les deux frères de Jeanne sont prisonniers, sont faits prisonniers par les Allemands. Et Jeanne souhaite qu'il soit recueilli par la famille de sa cousine. C'est ce qui arrive. Donc ils se retrouvent prisonniers chez leur cousin, le premier ministre du Grand-Duché de Hesse. Alors elle écrit, oh, qu'est-ce qu'ils sont bien chez vous, nos chers prisonniers. voyez, c'est...
Ah oui, faut mettre un peu de beurre sur la tartine.
Oui, c'est aussi inattendu, finalement. C'est pas classique comme situation. Et puis, Louis, malheureusement, est malade. À partir du mois de juin 1880, il commence à nous parler de sa maladie. Certainement qu'il s'agit d'un cancer de la bouche ou de la langue. Il est opéré...
On ne connaissait pas encore à l'époque.
On ne connaissait pas le mot, on n'utilisait pas le mot, mais tout laisse à penser que c'était ça. Et alors, il est opéré à deux reprises. Et il nous décrit ses opérations à la prison. À l'hôpital de la Toussaint à Strasbourg. C'est presque comme une prison, tellement c'est sinistre, ces conditions de soins qu'il doit subir. Et après la première opération, il va faire un voyage avec Jeanne en forêt noire. Alors, il nous raconte son voyage en forêt noire. C'est très pittoresque. Et après la deuxième opération, sa santé se dégrade et le dernier espoir, c'est le comte Mattei, qui a mis au point une technique de soins à base de globules, c'est le début de l'homéopathie, et d'électricité. Alors ils misent tout là-dessus et avec Jeanne, ils vont à Bologne, chez le comte Mattei, qui est censé le tirer d'affaires. Mmh. Et vous voyez, je vais vous lire un petit passage qui nous raconte son arrivée chez le comte dans les environs de Bologne. Alors il dit « Nous descendons à la station de Riola, gare affreuse. Il y fait un froid de Sibérie. Quelques masures éparpillées et jetées contre la montagne composent le hameau. Nous apercevons de suite la demeure du comte Mattei. C'est un immense château mauresque, flanqué d'un nombre considérable de tours et de tourelles, est gracieusement situé au sommet d'un petit pic des Apennins, dont la vue est merveilleuse. Depuis 20 ans, le comte occupe des nuées d'ouvriers pour restaurer ce vieux château qui pourrait vous faire supposer qu'on est en plein Orient. Nous prenons la seule voiture existant dans le pays. C'est une carriole des temps primitifs. C'est abominable, mais cela marche assez bien. Arrivés au pied de la Rochetta, nous descendons de voiture et franchissons pédestrement, je ne dirais pas un chemin, mais une espèce de ravin nous menant à une poterne donnant accès à la citadelle. Après maints pourparlers, nous sommes introduits dans une espèce de vestibule, puis dans une petite pièce d'un style semblable à celui de l'extérieur du château. Et nous nous trouvons en face du seigneur de ce donjon. C'est un vieillard vert encore, ayant l'aspect fin, bon et jovial, de beaucoup de simplicité. Son accueil est très cordial. Nous nous donnons force poignée de main. Je lui explique le but de ma visite et lui raconte les misères par lesquelles j'ai passé depuis quelques mois. Il ne doute pas de réussir à me rendre la santé et nous explique en détail son système. Et donc ça continue comme ça. Malheureusement, les remèdes du comte Mattei ne seront pas efficaces. D'ailleurs, si on parle aujourd'hui à un médecin du comte Mattei ou du mattéisme,
ils vont ouvrir de grands yeux.
Personne ne connaît ça. Ça montre que la technique n'a pas abouti à grand chose.
Donc c'est vrai que ce livre, donc Miroir de la noblesse alsacienne au XIXe siècle, c'est pas un roman. Et pourtant, certains passages, c'est exactement ça.
C'est exactement un roman. Alors d'abord, il y a toute cette littérature de Marie Lafarge qui est très romantique puisqu'on est entre 1827 et 1835 et qu'elle a un style époustouflant. Ensuite, ce que Jeanne et Louis écrivent, c'est très bien écrit. Ils savent écrire et ils savent surprendre le lecteur comme le ferait un romancier. Vous savez, vous lisez une phrase, le bon romancier c'est ça, il vous raconte quelque chose et à la fin de la phrase, il vous balance quelque chose que vous n'attendiez pas et qui relance l'intérêt. Et ça, ils savent le faire, même dans les lettres. Et Jeanne écrit énormément. Un jour, elle dit à sa cousine, « Je m'arrête là parce que ma main se refuse à plus de travail. C'est la 9e lettre que j'écris aujourd'hui. »
Elle avait donc la crampe de l'écrivain.
La crampe de l'écrivain, elle l'avait. Pour vous dire un peu combien elle était bavarde, parce qu'elle parle de causerie quand elle écrit, lorsque la lettre était arrivée à la fin de la page, elle tournait la feuille de papier et à 90 degrés, elle continuait d'écrire sur l'écriture précédente.
Ah oui, carrément.
Carrément.
Oui. Donc, c'est un livre... Est-ce que vous avez eu contact avec certaines familles? Vous leur avez présenté ce livre?
Mais bien sûr, de toute façon, ce livre n'existerait pas sans les familles.
Oui.
C'est-à-dire sans la famille de Reynac. Et c'est grâce à mon ami Antoine de Reynac et à son père, qui malheureusement est décédé depuis très longtemps, déjà depuis 1994, Maurice de Rénac, qui était le président de notre société d'histoire du Sungo, et grâce auquel j'ai pu accéder finalement à cette connaissance de la noblesse depuis plus de 30 ans maintenant. François de Mülheim également, qui a mis à ma disposition ses souvenirs de son arrière-grand-père, Louis de Mülheim, oui. Josy Dandelot, qui m'a permis de prendre quelques photos. Et tout ça était indispensable, évidemment, pour écrire ce livre.
Et ça vous a boosté vraiment pour arriver. Oui. Parce qu'il faut dire que c'est quand même un sacré ouvrage. Hein. Il y a combien de pages?
Il y en a 380.
Oui.
Et il a fallu le faire maigrir pour le faire entrer dans le format.
Parce qu'autrement c'était...
c'était encore plus gros. Mais vous savez, quand on fait maigrir un ouvrage, ça doit être comme avec les humains. Un peu de régime, ça fait du bien à un ouvrage.
En plus de ça, c'est pas écrit très gros. Hein.
Non, c'est pas trop gros, mais c'est lisible quand même.
Oui, bien sûr.
Oui.
On arrive même sans lunettes, mais bon.
Mais il y a du texte. Il y a du texte et des images. Et les images accompagnent toujours le texte, c'est-à-dire qu'elles sont situées au moment où elles doivent apparaître. Lorsqu'on parle d'un personnage, lorsqu'il y a une description, par exemple, Louis décrit les différents membres de la famille de Turckheim de Trutenhausen, ou les Rénac Verts de Niederney, Niederney, les Dietrich de Niederbronn aussi. Mmh. Et donc, c'est au moment où on parle d'un personnage qu'il faut voir sa bobine apparaître. Hein. Et ça a été possible aussi grâce à un beau fond documentaire de photos.
Donc il fallait avoir quand même connaissance de certaines personnes pour arriver à rentrer dans ce milieu.
Tout à fait.
Et maintenant, ce 19e siècle, est-ce qu'il y a toujours matière pour continuer d'écrire?
Oui, on pourrait imaginer, par exemple, une étude universitaire sur le sujet. Parce que mon ouvrage, au fond, est un livre d'ambiance. Grâce à ces lettres et à ces souvenirs, on entre dans la vie intime de la noblesse alsacienne. Mais ce n'est pas une étude universitaire qui va compter les nobles, qui va les recenser, situer leurs déplacements. C'est pas du tout ça. Et donc ce travail-là reste certainement à faire, s'il est intéressant. Il reste beaucoup de choses à écrire. Il reste beaucoup de correspondances dans les familles aussi à utiliser et à croiser avec celles-là.
Mais toujours des correspondances anciennes de l'époque du 19e siècle ou bien maintenant du 20e ou...
Non. Là, en parlant du 19e, oui, des correspondances d'époque. Oui. Il y a peu de correspondances publiées. On connaît ceux de la baronne d'Oberkirch, les souvenirs plutôt de la baronne d'Oberkirch. Hein. On connaît les correspondances des demoiselles de Berkheim. Et finalement, c'est un peu le troisième ouvrage, si on veut, dans ce domaine-là.
Marc Glotz, donc, si j'ai bien compris, il y a quand même beaucoup plus de matière dans le sud de l'Alsace, donc dans le Sungau, que dans le nord.
Non.
Finalement, non.
Non. C'est un petit peu, vous savez, Charlotte de Mülheim, qui est donc la fille cadette de Jeanne, épouse Sigismond de Rénac. Et c'est comme ça que ces lettres sont revenues à Hirtzpar. Parce que l'histoire des lettres est déjà incroyable. Ces lettres sont donc parties l'une après l'autre, pendant 30 ans, de Stotzheim. D'abord d'Ittenwiller, puis de Stotzheim, en direction de Darmstadt. Et puis, Adèle de Dalwick, qui les recevait, est décédée en 1912. Jeanne était décédée en 1911 déjà. En 1901, pardon, déjà. Mm-hmm. Et puis arrive la guerre. 1943, la fille d'Adèle, Pauline de Dalwick, prend la décision de répondre aux vœux de sa mère et de renvoyer les souvenirs alsaciens à sa cousine, la fille de Jeanne, Charlotte de Mülheim, qui a épousé Sigismond de Rénac. Et c'est comme ça que pendant les bombardements américains et anglais sur Darmstadt, les lettres reviennent en Alsace et qu'elles se retrouvent dans le Sungo, d'où elles n'étaient pas parties. Hein, d'où elles n'étaient pas parties.
Donc, Marc Glotz, c'est vrai que c'est... C'est assez passionnant, hein, ce livre, avec toutes ces familles de la noblesse qui, évidemment, pour beaucoup d'entre elles, existent toujours aujourd'hui.
Oui, les Cornes sont éteintes, les Mülheim existent, les Dandelot aussi, les Zorn de Boulard également, les Rénac Verts aussi.
Oui, Pourtalès.
Et les Pourtalès également, oui. Voilà. Les Bussières alsaciens sont éteints, mais existent ailleurs sûrement.
Eh bien, je vous remercie d'abord d'être venu faire du tourisme de là en bas jusqu'ici, parce que c'est vrai que ça faisait un petit chemin. Il va falloir rentrer.
Hein. Oui, c'est vrai. Mais c'était un plaisir.
Eh bien, je vous remercie. Pour nous, c'était aussi un plaisir. Et puis, si un jour vous avez un autre livre, une suite, par exemple, eh bien, vous ne gênez pas.
Qui sait ?
Vous nous passerez soit un coup de fil ou un email, et puis.
Qui sait ?
Hein, on vous recevra avec grand plaisir.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.